stops you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, les arts plastiques. Cette émission est préparée par Aïssa Toundoy, Jean-Christophe Brianchon, Boris Pinault et Grégoire Di Fiore et la prise de son assurée ce soir par Clément Daté, réalisation Boris Pinault. Autour de moi ce soir, Anaël Pigeat, Stéphane Coréard, Maurice Ulrich, soit une historique et deux petits nouveaux qui nous souhaitons bien sûr la bienvenue. Je suis très heureux de vous accueillir autour de cette belle table. À notre affiche pour votre premier menu, donc le massacre des innocents, Poussin, Picasso, Bacon. Et ça commence bien. Au domaine de Chantilly, et puis la deuxième édition de la Biennale des photographes du monde arabe, dans 8 lieux parisiens, dont l'Institut du monde arabe et la Maison européenne de la photo. Présente également ce soir Aïssa Toundoy, qui va surveiller en direct le fil Twitter Dispute FC, pour voir s'il y a quelques commentaires, même si les expositions ouvrent à peine cette semaine. Puis il y aura toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu des disputes ce soir, des places de cinéma pour aller voir ou revoir le film Titicut Follies de Frederick Wiseman qui est ressorti aujourd'hui dans les salles. Et nous ouvrons cette dispute en nous rendant dans le sublime domaine de Chantilly, au nord de Paris. Nous avons pris un petit bus, c'était au petit matin.
Un gros bus,
plein de critiques, Maurice. Hein. pour partir au nord de Paris pour découvrir cette exposition organisée autour du célébrissime tableau de Nicolas Poussin, Le Massacre des Innocents, peint à la fin des années 1620 à Rome. C'était une commande pour la décoration du palais de Vincenzo Giustiniani. Une œuvre qui représente donc une scène du Massacre des Innocents, issue du Nouveau Testament, citée dans l'Évangile selon Matthieu, une œuvre arrivée à Paris avec le reste de la collection en 1807 dans les bagages napoléoniens, qui est passé entre différentes mains, celle de Lucien Bonaparte, celle de Charles II de Parme, qu'il a vendu à Londres, quel scandale, en 1840. Là, le tableau change souvent de main avant d'arriver dans celle du duc d'Aumale, qu'il a acheté en avril 1854 pour 367,10 livres sterling. Soyons précis, il est installé dans la grande galerie du château de Chantilly depuis les années 1880, quand cette grande galerie a été achevée. Mais on va voir que ce coup-ci, il a un peu déménagé. L'exposition qui a ouvert il y a deux jours à peine s'intitule donc « Le massacre des innocents, Poussin, Picasso, Bacon ». Liste d'artistes non exhaustive, on va le voir, mais qui dit bien la postérité de ce tableau et son influence sur d'autres artistes. Les commissaires de cette exposition sont Pierre Rosanvert, le plus fervent défenseur de Poussin sur Terre, sans doute, mais aussi Nicole Garnier, qui est chargée du musée de Condé, donc dans le domaine de Chantilly, Laurent Lebon et Émilie Bouvard, scénographie signée Laurence Fontaine, lumière Philippe Collet. Pour une fois qu'on a scénographe et lumière cités dans les dossiers de presse, j'en rajoute une couche. Signalons-les. Alors, Anna Lepija, comme vous êtes l'ancienne de cette émission, aux côtés de Maurice Ulrich et Stéphane Coréal, vous leur montrez la voie.
Je vous emmène à Chantilly.
On vous suit.
On me suit. Ouais. Suivez-moi. Cette exposition, elle mérite très grand d'être extrêmement multidimensionnelle. Le premier aspect, c'est que elle est une occasion d'aller à Chantilly, ce qui finalement une chose qui ne se passe pas si souvent. C'est même la première fois qu'on y voit des œuvres contemporaines. Elle a le mérite de nous emmener à Chantilly et elle a le mérite d'être une exposition très rare, très riche du point de vue de l'histoire de l'art, puisque donc l'exposition se concentre autour du tableau de Poussin qui est à Chantilly et qui n'en bouge pas, puisque la collection le duc d'Aumale a prévu que la collection ne soit pas prêtée. Tout au plus, des changements peuvent avoir lieu dans l'accrochage, mais c'est tout. Enfin, en tout cas, le tableau de Poussin est déplacé.
Mais ne sort pas de Chantilly, ne sort pas du domaine.
Ne sort pas de domaine, absolument. Donc, des points d'histoire de l'art sont discutés. Pierre Rosenberg, par exemple, nous fait part dans l'exposition d'une découverte qu'il a faite sur une circonstance de la commande du tableau, dans laquelle il nous raconte que le Marquis Giustiniani est originaire de l'île de Chios en Grèce et que il y a eu un massacre de jeunes adolescents de sa famille et que le massacre des innocents par des Turcs qui envahissaient l'île et que ce massacre des innocents n'est peut-être pas inspiré par le cavalier marin comme on le pensait jusque-là, l'histoire biblique. Donc il y a des points d'histoire de l'art qui sont discutés, mais l'exposition, comme son titre assez séduisant, dirons-nous, l'indique peut-être.
Bah, du moment qu'il y a Picasso dans le titre.
Bon. Là, voilà,
nous
engage voilà, sur une certaine fortune critique de l'œuvre. J'ai oublié de dire qu'il y a un passage très joli, il y a un cheminement très joli dans le domaine, puisqu'on passe d'abord par une exposition de dessin, le cabinet de dessin ayant été refait. Absolument. Et puis par la grande galerie de peinture où une œuvre de Vincent Corpet est exposée. Ça, on y reviendra aussi, j'en doute pas. Donc, il y a une fortune critique de l'œuvre. Et enfin, il y a un aspect contemporain de l'exposition avec des artistes qui ont travaillé sur le massacre des innocents, d'autres dont on suppose que leurs œuvres peuvent avoir un lien avec le massacre des innocents, Jacques Grimbert par exemple, et d'autres enfin à qui des commandes ont été passées, Annette Messager par exemple, Jérôme Zonder, autre exemple. Donc c'est vraiment très, très complet de ce point de vue-là, mais surtout ce qui me semble le plus intéressant dans cette exposition, c'est la dimension extraordinairement actuelle et vivante de son sujet, puisqu'elle se termine avec trois coupures de presse de Paris Match, Libération et Le Monde, qui ont été plus ou moins titrées récemment sur la question intitulé le massacre des innocents, faisant référence à l'actualité tragique, évidemment. Et au fond, par cette réflexion, l'exposition nous conduit à regarder ce tableau de Poussin qui a une dimension synthétique extraordinaire, qui a une simplicité et un côté direct absolument saisissant, qui est parfaitement contemporain. Et au fond, l'œuvre la plus contemporaine, c'est peut-être celle-là.
Ah, ça, vous en êtes déjà à la conclusion, là, quasiment, Annel. Mais on va reprendre le chemin,
non,
peut-être.
C'est juste une proposition.
C'est une proposition. On va voir si vos camarades y adhèrent ou pas. Reprenons le chemin, quand même, Maurice Ulrich. C'est vrai qu'on a commencé par le cabinet de dessin.
Oui.
Voilà, impression, commentaire.
Moi, je pense que cette exposition est là, à mes yeux, deux mérites. D'une part, c'est une exposition resserrée. Et je trouve qu'on a trop actuellement d'expositions thématiques où on met un peu tout
et n'importe
quoi.
Prime.
Et où on a simplement 5-6 tableaux intéressants et on met des choses autour, comme chez les fleuristes, pour faire un gros bouquet. Donc, parfois, c'est un peu décevant. Mais celle-là est très resserrée. En même temps, elle est, boostée par la présence contemporaine et donc le rapport, dont on parlera plus tard, entre Poussin, bien entendu, Picasso et Bacon, qui est quand même quelque chose de très très intéressant du point de vue de l'histoire de l'art. Et en plus de ça, je dirais cette expo, c'est une double focale. Pourquoi ? Parce que c'est une focale sur le tableau de Poussin, c'est-à-dire que c'est lui qui est au centre de l'expo et tout tourne autour, donc on est vraiment attiré là-dessus. Et le tableau lui-même de Poussin est une focale. Il est une focale, pourquoi ? Parce que c'est un grand tableau, mais le cadre est resserré, et il est resserré sur quatre personnages, en réalité, le bébé, la femme qui retient le bras de l'assassin, l'assassin et la femme qui passe, ce qui est magnifique d'ailleurs, et qui évoque déjà certains tableaux de Picasso, on va en parler. Et donc, on a cette focale-là, qui fait du tableau de Poussin, je dirais, quelque chose d'extrêmement différent par rapport à tous les massacres des innocents qu'on peut connaître dans l'histoire. Je pense par exemple à celui de Rubens, qui est absolument magnifique, qui est un tournoiement de corps, de violence, etc. Mais on dirait que Rubens, il est dans le mouvement, il est dans une dynamique, alors que Poussin, il est sur un plan fixe. Mmh. Vous voyez, on est plus sur des films, on va dire, comme chez De Oliveira, mmh. etc. C'est-à-dire on a un plan fixe et ce plan fixe ne bouge pas. C'est-à-dire qu'on voit exactement ce qui se passe et d'une manière extrêmement cadrée, extrêmement resserrée, ce qui fait toute la différence avec d'autres.
Et pour ça, nous dit où regarder, qui regarder, voilà. quoi regarder.
Et le resserrement sur sur cette scène fait que elle est totalement du coup intemporelle. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que ces trois personnages, et la seule chose qu'il y a dans ce tableau, qui est presque un tableau sans Dieu, on y reviendra peut-être, parce que ça c'est intéressant chez Poussin, c'est l'absence de Dieu, me semble-t-il, dans son œuvre, etc. Mais ce qui est passionnant, c'est que ce resserrement sur ces personnages fait que le drame se passe totalement sous nos yeux, sans autre commentaire que le crime. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est le crime tel qu'il est. Mmh. Et c'est ça, là, je pense, ce qui fait l'originalité du tableau de Poussin. On va y revenir, je pense.
Bon, on n'était pas du tout au cabinet des dessins, mais du coup, je donne la parole à Stéphane Coréard. Sur ce tableau, peut-être. Non, mais effectivement, sur ce tableau, votre lecture à vous, Stéphane.
Oui, alors écoutez, ce que viennent de dire mes camarades est absolument vrai. Il y a dans l'exposition quelques-uns des plus beaux mètres carrés de peinture, peut-être, qu'on peut voir en ce moment dans la région parisienne. Et principalement, évidemment, le Massacre des Innocents de Poussin, qui est un tableau bouleversant. Et le
restauré,
le massacre ou le charnier de Picasso. C'est aussi un petit peu pour moi la limite de l'exposition parce que effectivement on a le plus grand défenseur de Poussin, on a le directeur du musée Picasso qui finalement ça vire un peu à la confrontation Poussin-Picasso dans le sens où on a l'impression qu'effectivement puisque l'exposition court plusieurs lièvres, à la fois c'est une exposition gigogne, je dirais un peu des poupées russes qui s'emboîtent. C'est une dimension historique très forte puisqu'on raconte l'histoire du tableau mais aussi l'histoire de l'iconographie du Massacre des Innocents par avant Poussin, pendant je dirais, et après. Il y a aussi toute la restauration qui, parce que le tableau vient d'être restauré magnifiquement, il y a le film de la restauration aussi qui est dans l'exposition, et puis enfin il y a effectivement la postérité contemporaine. Ce qui est un peu troublant, c'est qu'on a l'impression que ce que l'exposition nous dit, c'est que après le Massacre des Innocents de Poussin, il n'y a plus quelque part que le Massacre des Innocents de Poussin puisque toutes les versions contemporaines si vous voulez, sont des remakes pour utiliser un mot en anglais, mais c'est comme un album de reprises dont les 15 pistes seraient finalement la même chanson, reprise par 15 artistes différents. Pour moi, c'est...
L'exposition se pose comme telle, en même temps, Stéphane Coréard. Elle ne prétend pas être autre chose que cela.
Non oui et non, parce qu'on peut, évoquer la postérité d'un tableau ou d'un artiste de manière un petit peu
moins littérale. C'est un tableau, très spécifiquement.
Je suis d'accord. En même temps, ils prennent justement quand même certaines libertés. Par exemple, le charnier de Picasso, qui est l'autre chef-d'œuvre de l'exposition. Tout le monde reconnaît qu'il est absolument impossible de savoir s'il est directement inspiré ou pas du... tableau de Poussin, en tout cas, ce n'est pas une reprise.
Mais Picasso parlait de son massacre. Enfin, disait mon massacre à propos du charnier.
On fait dire ce qu'on veut à Picasso, c'est toujours le même problème. Maurice Ulrich.
Non, ce qui est intéressant, justement, dans cette filiation entre, notamment, Picasso et Bacon, c'est, je dirais, d'avoir à la fois un regard sur comment Picasso ou Bacon ont pu voir regarder Poussin. On sait que Bacon l'a vu en 1927.
Il a passé du temps à Chantilly.
Picasso avait une grande familiarité avec l'œuvre de Poussin, même si on ne sait pas à quel moment il a vu le Massacre des Innocents. Mais en même temps, je dirais, ces rapprochements qu'on peut faire, et on va aller plus loin tout à l'heure pour là-dessus, mais ces rapprochements qu'on peut faire, du coup, permettent de jeter un œil rétrospectif sur Poussin lui-même en voyant au fond ce qu'est sa modernité.
J'en suis absolument d'accord. Et ce que je faisais remarquer, c'est justement que les œuvres les plus intéressantes de la partie contemporaine sont celles qui ne sont pas des reprises du tableau littéral.
Oui, Bacon,
c'est-à-dire
et Picasso.
Picasso, Bacon, Jacques Grimbert. Finalement, à chaque fois qu'on s'éloigne du tableau et de la citation directe du tableau, c'est là où c'est le plus intéressant. Et je pense que l'exposition, quelque part, on passe à côté. Peut-être qu'il n'y avait pas la place, peut-être qu'il n'y avait pas les moyens, peut-être que ce n'était pas même simplement l'ambition. Mais évidemment, si on part sur l'idée de la représentation de la souffrance de la mère, du cri, parce que c'est aussi une question de cri, on
peut mettre les trois quarts de l'histoire de l'art, effectivement.
Oui, mais même aussi des choses qui auraient pu, je trouve, enrichir le propos. Par exemple, les deux versions du Massacre des Innocents d'Armand de 1961, qui sont justement des accumulations, au contraire, du génie de Poussin, ça aurait été intéressant de les confronter. Je trouve que ça aurait amené aussi plus de diversité. On aurait pu avoir de la vidéo, on aurait pu avoir Bill Viola, on aurait pu avoir Bruce Nauman, on aurait pu avoir de la performance. On aurait pu avoir, je pense, ce qui aurait fait des échos beaucoup plus riches que ces redites.
Annaëlle Pija.
On parlait d'exposition resserrée. Je me prenais à rêver de cette exposition Poussin, Bacon, Picasso, dans laquelle il n'y aurait eu que trois tableaux. Le massacre de Picasso. Le massacre
de Picasso, oui. Des innocents Poussin, le charnier de Picasso.
J'ai le massacre du printemps dans l'histoire de l'art. On peut bien voir le massacre de Picasso.
Voilà. En tout cas, il y aurait eu ces trois tableaux. Et finalement, non, je me faisais la réflexion que dans la disposition de l'exposition, dans la scénographie, il y a ce premier couloir. Il y a un premier couloir. Je parle de l'espace du jeu de paume, proprement parler. Il y a un premier couloir assez étroit et extrêmement anxiogène, dessiné par Laurence Fontaine, qui en gros nous raconte l'histoire du tableau, et qui culmine par l'autoportrait de Poussin prêté par le Louvre. Je trouve que cette partie-là est un peu resserrée et finalement que les dessins qui y sont accrochés, dont le portrait du duc d'Aumale, sont un peu écrasés par tous les textes de salle qui sont très intéressants et très bien faits, mais qui sont un peu trop présents dans cet endroit-là. Mais ensuite,
il faut prévoir les visites scolaires qui sont nombreuses à Chantilly. Je ne dis pas ça du tout ironiquement, sérieusement, premier degré.
J'entends bien, c'est vrai, mais on y compte bien.
Mes filles sont allées à Chantilly avant moi, donc avec leur classe.
En tout cas, il y a cette deuxième salle qui est la salle du massacre autour de laquelle sont installés tous les autres tableaux, dont le grand Guido Reni qui dessine cette ligne formidable avec le massacre de Poussin, soit dit en passant, qui est un prêt très exceptionnel du musée de Bologne et pour lequel le Louvre a prêté son Nessus et Déjanire en échange, parce que ce tableau n'est jamais sorti, sauf une fois, je crois, du musée de Bologne. Et ensuite, il y a dans une scénographie assez contournée, un peu en triangle, avec des petits percements comme ça qui permettent de passer d'une salle à l'autre par le regard, toute la partie contemporaine. Et je trouve que le Bacon en particulier, il y a une grande ligne ensuite qui fonctionne assez bien entre le tableau de Lupertz et le charnier de Picasso, mais je trouve que le Bacon qui voisine avec le charnier est finalement un peu laissé de côté et pas tout à fait aussi...
Et un peu écrasé.
Il est un peu écrasé, alors que c'est
un
tableau...
Tout bête aussi du format de tableau.
Absolument, le Bacon, alors que c'est un tableau qui est
Ed
Tew,
qui vient donc du musée de Belfast, et qu'on voit quand même pas souvent non plus en latitude.
Donc une des six têtes de Bacon. Apparemment, les commissaires avaient songé aux six figures au pied de la croix qui est à la tête, pour lequel ils n'ont pas obtenu le prêt, mais ils ont ce tableau-là qui est absolument saisissant, qui est dans un camaïeu de gris et dans laquelle on voit une tête posée sur le sol, tordue de douleur, devant un rideau retenu par une petite épingle à nourrice qui fait froid dans le dos. Et qui est totalement
avec la première
flèche. Il faut dire d'ailleurs que ce Bacon que moi j'avais déjà découvert avec une certaine stupéfaction à Bâle, je crois, chez Beyeler, me semble-t-il, est quand même très impressionnant parce que contrairement à ce qu'on connaît du Bacon des années 60-70, avec cette peinture quand même très lisse, même si les corps ne le sont pas, celle-là est une peinture tout à fait différente parce que sa matière même est une matière charbonneuse, terreuse, grise, d'où émerge d'une manière absolument épouvantable quelques dents. On a l'impression que il y a un œil, etc. Donc on ne sait pas d'ailleurs si ce Bacon-là est lié à la découverte des camps d'extermination. Mais il a été réalisé en 49, si je ne me trompe pas, ou à un an ou deux près, 47 ou 49, en même temps ou à peu près dans la même période que le charnier de Picasso. Mais là où Bacon, où il y a la force de Bacon, c'est que c'est dans la matière même. On n'est plus. Au fond, Picasso est toujours dans la représentation. Sa manière, bien entendu. Bacon, il est dans la matière. Il nous donne à voir la matière du meurtre. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est un Bacon absolument stupéfiant qu'il faut voir. Je ne diminue en rien le mérite du charnier, hein, on est bien d'accord.
Stéphane Correa?
Oui, alors moi j'abonde. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux commissaires dans cette exposition et il y a deux expositions. Voire peut-être même trois d'ailleurs. Mais en tout cas, il y a au moins il y a une absence de confrontation entre les tableaux anciens et la peinture moderne et contemporaine qui, à mon sens, est, on peut dire, dommageable et peut-être salutaire, parce que finalement il y a une confrontation, c'est le tableau de Vincent Corpet qui a pris la place du tableau de Poussin dans la galerie du duc d'Aumale, et les avis, le moins qu'on puisse dire, sont partagés.
C'est assez audacieux, on va dire, quand même.
ça pique un peu les yeux, comme on dit parfois.
Contemporain dans le...
Oui,
là particulièrement,
parce que quand même, le seul, et dans le, c'est sans doute un parti pris scénographique et narratif de l'exposition, le Poussin et le Picasso sont accrochés dans deux salles différentes, mais sur des murs.
Ouais, on peut les regarder en perspective.
Et on les a successivement, comme une espèce de travelling traverse l'exposition, et il y a une persistance rétinienne qui est magnifique. C'est-à-dire que le tableau de Picasso effectivement résonne superbement avec le tableau de Poussin. Mais ce dialogue, à mon avis, se limite, n'a vraiment une tension qu'à ce moment-là. Et par ailleurs, il y a quand même un net déséquilibre de l'exposition. D'aucuns s'en réjouiront, en faveur de l'art français et d'un certain art français des années 70-80, qui est un parti pris d'exposition, un parti pris curieux, peut-être qu'il trouve aussi des explications. C'est-à-dire qu'en gros, après la peinture ancienne, on arrive dans un triptyque Lupertz, dont on n'a pas parlé, un grand tableau de Lupertz, qui lui est un
détail agrandi
du Poussin. Donc Lupertz, Bacon, Picasso. Et puis après, finalement, il y a un peu serré tous les artistes, le cheptel d'artistes français.
Ernest Pignon-Ernest, Préco.
Alors, le Ernest Pignon-Ernest, qui à mon avis est un tableau d'une rare obscénité, c'est-à-dire que c'est une reprise du tableau de Poussin, mais où les femmes nues, le sexe ébouriffé, les cheveux tout aussi ébouriffés, les yeux luisants, sont des espèces de femelles érotisées qui me paraît complètement déplacées dans le cadre du tableau.
Ah, Maurice, vous n'avez pas vu ça.
Je ne dirais pas que c'est un des meilleurs Pignons, mais
c'est une reprise, c'est une reprise agrandie d'une étude que Pignon-Ernest a fait sur le massacre.
Et en fait, je trouve que finalement, les Annelle. Commandes ne sont pas les meilleures.
Comme celle de Jérôme Zonder, vous voulez dire ?
Par exemple.
Il reprend des carrés comme il le fait souvent.
Non, mais c'est vrai,
détails de...
Annelle le disait tout à l'heure, au fond, cette exposition, de par son propos, elle aurait pu se limiter à trois tableaux. Donc le Poussin, le Bacon et le Picasso. Parce qu'au fond, la problématique.
Après, c'est compliqué de faire venir les gens à Chantilly avec trois tableaux.
Mais je suis là-dessus. Hein. Ce que je disais sur l'intérêt de cette expo tout à l'heure, c'est que c'est pas du tout une expo qui va vous dire on va vous en mettre plein la vue, on va etc. C'est une expo qui a une dimension, vraiment profondément de réflexion sur qu'est-ce que c'est que la peinture, qu'est-ce que c'est sur l'histoire de l'art, etc. Simplement, puisqu'on va y venir, mais moi je le dis maintenant, la fameuse histoire du cri. Bon, le cri de la femme qui est reproduit d'ailleurs sur tout Paris peut voir dans le métro sur les affiches d'ailleurs. Ce cri-là, d'une part, il est nouveau dans l'histoire de la peinture parce qu'il est d'une violence extraordinaire de par la géométrisation même du visage. Vous voyez, c'est-à-dire, ce n'est pas un visage réaliste, ce n'est pas un visage naturaliste, c'est un visage qui veut aller plus loin pour dire quelque chose. Et ça, Pierre Rosenberg. Donc de l'Académie française, spécialiste de Poussin, l'a très bien dit à propos même des dessins de Poussin. Les dessins de Poussin, Poussin n'était pas un virtuose du dessin, mais les dessins de Poussin, ils sont la mise en forme d'une idée. C'est pour ça qu'on a parlé de Poussin comme peintre intellectuel qu'il était, hein, d'ailleurs. On a parlé de peintre philosophe aussi, si je ne me trompe pas, à propos de Poussin. Pourquoi ? Parce que Poussin, il a une pensée et il l'incarne dans sa peinture. Il l'a fait vivre, il l'a fait exister. Bon, il dessine très bien, évidemment, mieux que nous. Mais ce n'est pas un dessinateur virtuose et la virtuosité n'est pas son propos. Et donc, et il le fait comment ? Il le fait déjà, d'une certaine manière, avec, je vais être un peu audacieux, mais des géométrisations qui sont déjà un peu qu'on annonce un petit peu Cézanne, si vous voulez. Si on prend le visage de la femme, on voit bien que le propos n'est pas, je dirais, de faire un visage réaliste. Il est un visage un peu cézannien, vous voyez, traiter la nature par le cube, etc., le cylindre, etc. Et là, on est un peu là-dedans. Mais en plus, le cri, donc, je poursuis, ce cri-là, donc il est, je dirais, presque un archétype du cri. C'est pour ça qu'il va intéresser Picasso, qui va, pense-t-on, le réintroduire dans Guernica et dans Le Charnier, peut-être. Hein. Mais c'est aussi chez Bacon. Et Bacon, il voit donc Poussin en 1927. L'année suivante, ou à peu près, il voit le cuirassé Potemkin, d'Eisenstein, et là, il est frappé par le cri de la nourrice en haut des escaliers d'Odessa, quand le landau commence à dévaler les escaliers, ce cri de la nourrice, qui est au fond le même que celui de la femme dans le tableau de Poussin. Et Bacon, si je me souviens bien, a gardé pratiquement toute sa vie des photographies du cri de la nourrice à côté de lui dans son atelier. Ouais. Et donc, là aussi, on a cette chose intéressante qui est ce fil du cri à travers Poussin, Picasso et Bacon.
Annelle Pigeat, on va conclure
le même
bientôt
cri
là.
Que Annette Messager reprend dans son œuvre. Annette Messager qui est un peu à l'écart parce qu'elle est à l'entrée du jeu de paume. Enfin, elle accueille le visiteur.
L'entrée, c'est pas l'écart. Non, ça commence par
elle. Accueille le visiteur. Elle est à l'écart de la zone là dans laquelle on se trouve avec le tableau de Poussin. Mais c'est précisément ce cri qu'elle a choisi de souligner dans son œuvre Innocent, dans lequel des lettres innocentes sont affalées littéralement sur le sol, prises dans un filet de deuil. Et je voudrais revenir quand même sur cette idée du contemporain. Ce qui est intéressant dans le fait de mêler quand même, si on part du principe qu'on a un peu plus de trois tableaux du contemporain à ces œuvres-là, c'est la conversation qui est établie par certains artistes avec le tableau de Poussin. Et je pense par exemple à l'intervention de Jean-Michel Alberola, qui souligne, qui est très réussi et qui souligne certains petits passages, la main notamment de
et
l'enfant.
Et le ciel, surtout le ciel.
Et le ciel, merci, j'allais le dire. La main de l'enfant auprès de la jambe du soldat et le ciel qui est la seule lueur d'espoir dans tout ça et qui rend supportable de regarder ce tableau qui sinon est insoutenable.
Est insoutenable. Mais... Oui, non, Maurice, très très rapidement, vous voulez préciser?
Non, simplement, je voulais dire que le ciel du tableau de Poussin, il est très extrêmement proche du ciel, de certains ciels de Picasso dans les années 22-23, et notamment le ciel de la flûte de Pan, vous savez, ces deux hommes sur un parapet avec le ciel derrière, et on voit bien que là, même en matière de couleurs, il y a du Poussin chez Picasso.
Stéphane Coréard, et on va conclure sur cette expo à Chantilly.
Non, mais je crois qu'on a dit beaucoup de choses. J'aurais voulu parler aussi de la couleur, de l'utilisation des trois couleurs primaires dans le tableau qui est également absolument, très moderne. Et pour finir, effectivement, l'exposition se termine sur ces trois coupures de presse. Je trouve que c'est un peu une queue de poisson. Pas utile, d'après moi.
Je trouve très déplacé, moi, mais bon.
Voilà.
Chacun son opinion là-dessus.
Mais ceci dit, c'est quand même une très exposition curieux. Qui résonne fortement avec l'actualité. Je pense qu'on ne peut pas rester insensible.
Bon, enfin, on a peut-être pas besoin de nous mettre des coupures
non,
de journaux
justement,
pour qu'on
y avait
comprenne.
Pas, je pense qu'effectivement, c'est présent à l'esprit de toute façon.
Pour le coup un peu déplacé. Bon, comme ça on aura quelques petits bémols. On a à peine parlé d'Olivier Corpé, mais bon, on peut voir des photos que le Curieux des Arts met en ligne, hein, Issa Tundoy, sur le Twitter de la dispute et sur le sien. Il nous disait tout à l'heure aussi que...
Oui, il précisait que ce serait la première fois que l'art contemporain entre au domaine de Chantilly.
Oui, c'est le cas.
C'est ce qui me semble que vous l'aviez dit, Anna, à l'ouverture. Oui, donc, confirmation. Donc, c'est très bien qu'effectivement que le domaine de Chantilly fasse ça.
On aurait pu Maurice parler Olerich. Encore une bonne demi-heure de Poussin.
Oui, mais nous avons...
Même plus, non.
Et de la thématique du massacre des innocents.
Eh bien, écoutez, on en fera une deuxième émission. Ça dure jusqu'au 7 janvier. On peut refaire ça, absolument. Si vous voulez, pour les fêtes. Vous ne partez pas à la fin de l'année, Maurice.
Ah ben, s'il faut parler de Poussin, je resterai.
Ah bon, ben, on restera tous les deux, au moins. On verra s'il y a d'autres amateurs. Le massacre des innocents, Poussin, Picasso, Bacon au domaine de Chantilly jusqu'au 7 janvier. Catalogue de l'exposition coédité par le domaine de Chantilly et Flammarion. À suivre dans la dispute, la Biennale des photographes du monde arabe qui vient à peine d'ouvrir. Mais si jamais vous avez des avis déjà à partager, vous pouvez le faire aussi en suivant le fil Twitter Dispute FC.
France Culture,
la dispute,
Arnaud Laporte.
Et puis vous évoquiez, Anaël Pigeat, cette œuvre d'Annette Messager, qui je crois vous en avez parlé lors de sa masterclass que vous aviez enregistrée avec elle pour France Culture. Et les masterclass, le retour, vous le saviez Anaël, ça reprend, les enregistrements reprennent pour cette saison 2 de ces masterclass qui ont été pour la première saison diffusées tous les jours pendant la grille d'été de France Culture. Ce sera le cas à nouveau à l'été 2018. Première session d'enregistrement, c'est ce samedi 16 septembre, toujours en public, au studio 106 de la Maison de la Radio. Au programme, dès 14h, Raymond Depardon sera interrogé par Antoine Guillot. Ensuite, à 15h30, c'est Dominique Gonzalez-Forster qui sera interrogée, elle, par Mathilde Serrel. J'aurai la joie de m'entretenir à 17h avec Mathalie Crassé. Et à 18h30, c'est Olivia Gesbert qui conclura cette première session de Masterclass en interrogeant le cinéaste, scénariste Éric Rochand. Vous pouvez vous inscrire. Évidemment, l'entrée est libre, mais il faut s'inscrire sur le site de la Maison de la Radio pour avoir votre nom à l'entrée et qu'on vous laisse pénétrer dans ce studio 106 pour cette nouvelle session d'enregistrement des masterclass. Ça va continuer aussi toute l'année à la Bibliothèque nationale de France, site François Mitterrand, pour les masterclass d'écrivains. Et puis tout au long de la saison, on vous en donnera évidemment régulièrement des nouvelles. Le deuxième sujet qui va être couplé au troisième, on va dire ça comme ça ce soir, est plus court ce soir, mais il concerne la deuxième biennale des photographes du monde arabe qu'on va aborder en deux temps. Elle se déroule sur 8 lieux avec une cinquantaine d'artistes, deux cœurs battants, si on peut dire ça comme ça, la Maison Européenne de la Photographie et à l'Institut du Monde Arabe. C'est Gabriel Boré qui est le commissaire général de cette biennale.
Thank you.
disait que c'était trop peu pour Poussin, avant de parler de la Biennale du monde arabe. Aïssa Tundoy, c'est un avis partagé?
Une remarque de Liored qui dit que des avis et des remarques, les avis et les remarques sont intéressants, mais qu'aucune réflexion sur la question de la citation en peinture n'a été abordée.
Mais, parce qu'elle dit, une demi-heure.
Une demi-heure, c'est peu.
C'est peu. Voilà. Donc, il faudra qu'on va soumettre ça au vote, mais qu'on pourra reparler de cette exposition très sérieusement. Poussin au domaine de Chantilly. Mais bon, c'est de la Biennale des photographes du monde arabe dont nous parlons à présent. Commencez peut-être par. J'ai perdu mes notes, tiens, ce qui est quand même pas très pratique. Il y avait une première Biennale qui était assez généraliste. On l'avait évoqué ici même il y a 2 ans sur le monde arabe. Là, l'idée était quand même de se concentrer davantage sur la Tunisie et l'Algérie, mais c'est évidemment pas exclusif de ces deux pays. En tout cas, l'Algérie est davantage présente à la MEP pour une exposition dont la co-commissaire est Christiane Rodriguez. Tiens, Stéphane Coréard va ouvrir ce nouveau chapitre de la dispute ce soir.
Alors effectivement, après l'exposition Gigogne qui était Poussin, là c'est plutôt une exposition chorale, ouais, avec un commissaire général, Gabriel Boret, qui distribue dans ces lieux des co-commissariats. Finalement, ce qui crée des identités assez différentes à chacun des lieux. Un côté très fragmentaire, peut-être parfois qui manque justement d'unité, mais qui est aussi intéressant par cette diversité de points de vue. Je rajouterai, j'espère qu'on pourra en parler, l'exposition qui est à la...
Alors, la Cité nationale des arts.
Voilà.
Je compte bien en parler.
Ah d'accord, parfait. Mais oui. Parce que c'est celle qui personnellement m'a le plus intéressé, qui est justement sur l'Algérie uniquement.
Moi, c'est la seule que j'ai vue pour l'instant. Mais j'ai fait mon choix.
C'était un bon choix.
Mais j'ai fait un choix. Bon, les questions d'agenda.
Il y a aussi des expositions dans des galeries, effectivement. Donc, mais ouais, tout est quand même regroupé autour, dans le quatrième, autour de l'île Saint-Louis, du Marais. Donc c'est une ville qu'on peut quand même visiter.
À pied avec le beau temps qu'il fait à Paris en ce moment, en plus, c'est parfait pour se balader.
Alors absolument. Alors c'est pour commencer effectivement par la Maison Européenne de la Photo, c'est là où on a commencé. C'est une petite partie des espaces de la Maison Européenne de la Photo qui sont consacrés à cette biennale. 3 monographies relativement courtes, une vingtaine d'images par photographe. Personnellement, je ne vais peut-être pas m'attarder beaucoup sur cette partie-là que Canaël a beaucoup aimée, mais où personnellement, j'ai trouvé plutôt des redites quand même. On n'a pas, d'une manière générale, dans l'ensemble de la biennale, on a un peu l'impression d'un catalogue de photographes qu'on connaît déjà, mais dont on ne reconnaît pas les noms. Parce que, et pour cause, en fait, c'est pas ceux qu'on croyait connaître qui ont signé les photos, mais d'autres, qui ont d'autres noms. Mais cependant, il y a quand même des vraies thématiques qui peuvent se dégager. À l'Institut du Monde Arabe, par exemple, qui est la partie où il y a le plus de moyens. Vous voulez qu'on en parle après, peut-être, de l'Institut du Monde Arabe?
Moi, ouais, je veux bien, parce que Anaëlle Pigeat adorait ce qui se passe à la MEP, peut-être. Anaëlle. Ouais.
Ces trois profils différents. Moi, ce qui m'a, de manière un peu générale, d'abord, ce qui me frappe dans cette biennale, c'est que, c'est d'abord, ce que c'est, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que c'est que le monde arabe et qu'est-ce que c'est que la photo du monde arabe.
On se pose à chaque fois la même question.
On se pose à chaque fois la même question.
Et, quand on parle d'art africain, on dit qu'est-ce que c'est que l'art africain, ouais. Ça n'existe pas.
Voilà. Il y a différents pays en Afrique. Et là, on est tenté de répondre que la photo du monde arabe, ça n'existe pas.
Juste une interruption.
Près du micro, ce sera mieux.
Je vois une des photographes, Rania Matar, qui a beaucoup photographié sa fille et tout, c'est intéressant. Mais Rania Matar, elle est née à Beyrouth, certes, mais elle vit et travaille à Boston depuis des années.
Et le monde arabe est pris dans une acception.
Moi, je photographie le monde arabe, mais voilà.
Le monde arabe est pris dans une acception assez large qui va en gros du Maroc à l'Arabie Saoudite et se compose de photographes nés sur place et vivant sur place, mais aussi d'une Coréenne qui parle de la ligne la frontière israélo-palestinienne et même d'un Espagnol qui est devenu le portraitiste officiel de l'Arabie Saoudite. Ce qui est assez inattendu et qui finit par faire des photographies dans le désert.
Ce qui fait sens quand même.
Grâce à ce qui
s'appelle de l'espace géographique du monde arabe. Qu'on y soit né, qu'on y travaille, qu'on y fasse des images, qu'on en soit parti.
Tout à fait. Alors effectivement, de là émergent des grandes thématiques.
Est-ce que les appareils photos sont arabes ? Non, je dis ça un peu par provocation, mais je veux dire, qu'est-ce que des photographes du monde arabe ? C'est vrai que moi j'ai cette interrogation très forte, et Naël vient de le dire, mais ça veut dire qu'on photographie autrement ? Ça veut dire quoi ?
Alors, voilà,
moi j'ai cette question quand même.
Oui, tout à fait.
Naël Pigeat.
Non, mais je partage entièrement ce questionnement. Pour répondre à votre question, Arnaud, à la MEP, on voit 3 photographes de générations un peu différentes, mais... enfin non, relativement, enfin de générations assez proches, oui, oui, en fait, de générations assez proches, qui chacun photographie des images dans lesquelles on voit des lieux. Alors, Hicham Bennaoud, il est marocain et on voit des acrobates de la place Jemaa el Fna qui montent dans leur intimité. Je parle pas de la deuxième série qui s'appelle The Hole, donc le trou que je trouve vraiment moins bonne, dans lequel on voit des gens qui ont, enfin, il a été en fait sur place faire des trous dans les murs et faire poser des familles dans des positions un peu inattendues et puis ensuite il rebouche derrière lui. Ça, je trouve ça certes métaphorique, mais plutôt du mauvais Maurizio Cattelan que du, enfin bon, bref. La deuxième, c'est Farida Hamak, qui elle est entre reportage et photo d'auteur, qui a été correspondante à Newsweek à Beyrouth, puis ensuite qui est devenue rédactrice en chef de mode et qui nous montre son village natal dans le Sahel. J'ai pas trouvé ça non plus
Ça vous a pas bouleversé.
Bouleversant, enfin pas très renouvelant en fait. La troisième s'appelle Xenia Nikolskaya. Alors elle est russe et son mari vit en Suède. Enfin, elle vit aussi en Suède. Et elle nous montre des images du Caire, des palais abandonnés du Caire, qui en fait n'ont pas l'air du tout de se trouver au Caire. Alors évidemment, c'est des images très romanesques, très romantiques. On voit des théâtres abandonnés, des salons abandonnés. Il y a même les housses sur les fauteuils.
On croit que c'est Détroit, mais non,
finalement,
c'est le Caire.
Exactement. Finalement, c'est peut-être des trois, l'exposition, pour ce qui concerne la MEP, qui soulève le plus de questions sur la situation actuelle de l'Égypte, ses palais. Mais je ne trouve pas, enfin, ce qui me frappe beaucoup dans tout ça, c'est qu'il y a assez peu, il y a des questions qui relèvent du document, mais pas seulement. Et surtout, il y a assez peu de renouvellement, et ça, c'est valable pour toute la biennale, du point de vue des formes. C'est-à-dire qu'on nous parle d'une biennale de la photographie, mais aujourd'hui, tous les musées du monde, sauf le Centre Pompidou, cessent d'avoir une galerie de photos et mêlent la photo à leur collection permanente, on l'a dit déjà souvent dans l'émission. À Paris Photo, c'est vrai aussi, sont explorées les limites de la photographie vers la performance, vers l'installation, même parfois vers le son. Et là, on nous parle d'une biennale de photographie dans laquelle, à les quelques exceptions près, c'est-à-dire quelques vidéos et quelques images montrées sur des caissons lumineux à Lima, mais de manière non indispensable à mes yeux, finalement, on voit une photographie qui est vraiment de la photographie stricto sensu. Il y a une exception qui est la galerie Binôme, qui nous montre un travail sur la lumière qui est un peu proche de l'Opart et qui est une exposition assurée par deux artistes
dont vous allez retrouver les noms,
qui sont Mustapha Azeroual et Sarah Naïm.
Bravo. Avant de revenir vers vous, Stéphane Correa, et vers la Cité internationale des arts, et on passera aussi par Lima, Maurice Ulrich. Visite rapide.
Je veux dire, le monde arabe, justement, la définition reste floue. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qu'on photographie dans le monde arabe ? On va dire, si je photographie une pastèque, ça va être le monde arabe. Si je photographie, j'en sais rien, un frigidaire, est-ce que c'est le monde arabe ? Non, je plaisante, mais j'ai par exemple sous les yeux là une photographie de Jelel Castelli, donc qui est, lui vit à Tunis et il travaille à Tunis, mais il est dans une photo qui est complètement minimaliste et abstraite. Donc, alors que d'autres sont dans une photographie, je dirais, qui veut cerner une certaine réalité, ou locale, ou etc., le village dont parlait Anaël, etc. Mais donc, ça veut dire qu'à un moment donné, entre l'abstraction de Gastelli, entre l'abstraction de Gastelli et une photographie qui va être soit plus documentaire, soit plus ancrée dans une réalité, finalement, on ne parle pas du tout du même monde arabe. Et est-ce qu'une photographie abstraite, c'est le monde arabe ? Je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, mais le principe, c'est l'état des lieux de... qu'est-ce qui se joue dans la création des photographes ?
Oui, mais ce qui se joue entre le choix entre une photographie quasiment abstraite et une photographie, on va dire, documentariste pour faire court, justement, qu'est-ce qui se joue ? Ben justement, là, on ne sait pas.
Ça veut dire que tout ton droit de citer.
Ce qui est intéressant, c'est que cette biennale de photos du monde arabe est née à peu près au moment où s'arrêtait, enfin, juste au moment où s'arrêtait Photoquai au musée du Quai Branly, qui montrait en gros des photographes d'un monde non occidental. Et je trouve assez intéressant de remarquer qu'on passe de l'un à l'autre dans un effet de resserrement. Alors évidemment, l'arrêt de Photoquai était un boulevard pour l'Institut du Monde Arabe, qui je crois est à l'origine de cette biennale, et pourquoi pas. Mais je suis un peu... Enfin, c'est un passage.
Stéphane Goréard.
Alors moi je répondrais quand même à Maurice Ulrich que la diversité est toujours une qualité en art.
Oui, mais j'ai pas dit le contraire.
Mais là où en revanche j'abonderais,
c'est le concept qui est flou, c'est ça.
Alors c'est pas si les photos abstraites sont assez rares dans
la. Oui, non, j'ai dit qu'il y a pas de nu non plus. Ce que j'ai dit c'est que le concept de monde arabe est flou, voilà, c'est ça que je veux dire.
Il n'y a pas de photo floue d'ailleurs non plus. Pas assez. Ce qui est vrai, pour rebondir sur ce que disait Anaëlle, c'est vrai que j'ai pensé assez vite qu'on avait, affaire un peu une biennale JPEG, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a beaucoup d'images qui ont été envoyées par voie numérique, tirées en France,
mais
un peu toujours dans le même format.
Les Algériens ont tous été fabriqués en Algérie. Ouais.
À part, effectivement, et notamment à Lima, où on voit qu'il y a plus de moyens à l'Institut du monde arabe, et là, il y a un petit peu de vidéos, un petit peu de questions lumineuses, etc. Effectivement, peut-être ce commissariat éclaté fait que ça manque un peu de propos et de parti pris. Là, je suivrai ce que dit Maurice Ulrich. On a parfois du mal à comprendre ce qu'on veut vraiment nous dire de ce monde arabe. Alors, à l'Institut du
monde
arabe... Mais
est-ce qu'on doit nous dire quelque chose ou est-ce qu'on nous propose simplement un panorama, un état des lieux ?
En tant que commissaire, je pense que c'est intéressant quand même de donner des... On va en parler justement. Si on compare l'exposition de l'Institut du monde arabe avec celle de la Cité internationale des arts. À l'Institut du monde arabe, on a toujours le même effet, un peu de catalogue. Mais
c'est Ofa Feki qui est co-commissaire là.
Absolument. Et d'ailleurs, elle donne un peu la réponse par rapport à ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'elle dit que elle veut donner une vision aussi proche que possible de la production artistique dans et sur le monde arabe. Donc c'est bien, on est bien dans ce cadre-là. En revanche, ce qui se dégage quand même à ce monde arabe, c'est une réflexion sur l'identité, au sens large, et plutôt même sur les identités. Et c'est là où je suis un peu gêné, c'est-à-dire qu'il y a un côté un peu catalogue, c'est-à-dire que chaque photographe parle d'un groupe, alors d'un groupe ethnique, d'un groupe social, d'un groupe familial. Il y a par exemple Tasnim Sultan d'Arabie Saoudite qui photographie uniquement des mariés et leurs proches, Ziad Ben Romdan qui ne photographie que des mineurs venus de pays voisins, etc. Donc il y a un peu une juxtaposition de groupes sociaux, familiaux.
Famille.
Voilà, c'est ça, tout à fait un jeu des sept familles. Alors là-dedans, il y a quand même du bon. Hein. Par exemple, moi, je retiens la photographe, d'ailleurs, qui est une Française, mi-française, mi-américaine, Scarlett Cotten, dont l'image fait la couverture du catalogue et qui travaille sur l'identité masculine. Qu'est-ce que c'est que l'identité masculine dans les
la virilité,
exactement. Et je trouve que c'est un travail assez beau et assez subtil sur une identité masculine qui n'est pas monolithique, qui est fragmentée, diffractée, multiple. Et je trouve que c'est une image un peu nouvelle pour nous, peut-être, du monde arabe et de la masculinité. Aussi, dans la même exposition à l'Institut du monde arabe, Doraïd Swiss, un franco-tunisien de 38 ans qui fait des portraits charbonneux où les personnages sont de dos assez petits dans un halo très mystérieux. Il y a une grande polysémie, on ne comprend pas qui sont ces gens, ce qu'ils attendent, ce qui les accable, etc. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait tout de suite un petit peu plus de récits, de fiction, de subtilité. Et ça m'amène...
Peut-être en réaction sur l'Institut du monde arabe, vous n'avez pas l'air tout à fait d'accord avec le propos de Stéphane Coréard, Anaëlle Pijard.
Non, c'est pas ça, c'est que c'est d'une nature assez différente de l'exposition de la Cité des Arts. Effectivement,
on n'y est pas encore. On le dit, allez.
Bon, la Cité des Arts, enfin, c'est le résultat d'un atelier qui a été mené par Bruno Boudjelal, lui-même photographe, avec un certain nombre d'étudiants sur place. Il en a choisi 9 auxquels, je crois qu'il y a 20 artistes qui sont présentés en tout, auxquels il a ajouté quelques autres. Et finalement, cette exposition-là, c'est le portrait d'une scène. Là aussi, c'est une exposition qui est beaucoup
plus resserrée.
Le titre est
explicite, pour une nouvelle scène, pour une nouvelle photographie algérienne.
Et donc, c'est un propos qui est beaucoup plus resserré que le propos de l'Institut du monde arabe, qui se veut un grand paysage. Il y a un propos, absolument. Absolument. Et on sent un véritable élan. Et l'exposition est d'ailleurs très bien menée. Elle se déploie dans un espace assez grand, sur 3 étages, qui ont chacun un peu une dominante, disons. Au premier étage, on sent une sorte d'élan, comme ça, cette jeunesse qui est montrée avec beaucoup de corps. Il y a des stades de football, il y a des murs graphés, il y a des jeunes dans des cités, une grande cité qui s'appelle Climat de France, notamment. Au deuxième étage, il y a une...
Cité bien connue.
Climat de France, on salue Marie Richeux. À 21h sur la trentaine,
absolument.
C'est le titre de son nouveau livre.
le deuxième étage a une coloration un peu plus intime. Et là, moi, j'ai retenu une œuvre de Oussama Tapti, qu'en fait, j'avais vue dans une biennale de Dakar. Là, il montre des photographies, une série qui s'appelle Fake, qui sont des faux palmiers, qui sont déguisés en antennes relais, que j'ai trouvé assez réussie. Et les œuvres que j'avais... Mon camarade n'est pas d'accord avec
non,
moi.
Non, c'est pas ça, c'est que c'est un peu l'effet de cette biennale, c'est-à-dire qu'il y a 10 fois la même photo.
Non, mais pas celle-là, justement.
Ah bah si. Il y en a 10, Faux Palmiers.
La série.
Oui. Il n'y a que cette série. Bah oui, d'accord, mais enfin, c'est que des séries juxtaposées. Je trouve ça parfois un peu court.
Court
pour découvrir des personnalités, ce qui est quand même aussi le but d'une biennale qui nous montre des photographes qu'on ne connaît pas.
Non, c'est une exposition, c'est pas une série de propositions monographiques. Là, il y a quand même, enfin, il était, déjà, je trouve que par ces séries, justement, on voit assez bien. C'est pas, à l'image, justement, on voit une photo par artiste et c'est assez limité. Là, on a une série pour chacun, ça, non, je trouve qu'on voit assez bien. Enfin, bon, et pour finir, je continue mon petit chemin dans la Cité des Arts. Après ce deuxième étage un peu plus intime, le dernier étage est franchement mélancolique et on a l'impression comme ça de l'usure de cette jeunesse. Et y a des séries comme une série qui s'appelle Naufrage, Wrecks. On voit des épaves de voitures et des épaves d'autobus. Voilà. Et effectivement, il y a un propos.
Stéphane Goria.
Oui, alors j'ai pas retenu les mêmes photographes que Canaël Pija, mais néanmoins, ce qui m'a effectivement plu dans cette exposition de la Cité internationale des arts, c'est ce que raconte le commissaire Bruno Bugellal dans le texte qui est dans l'exposition, c'est qu'il a été frappé par le désir, le dynamisme, l'énergie de ces photographes, et je trouve qu'il s'est très bien rendu dans l'exposition. J'ai même parfois pensé, on a l'impression de voir Alger d'aujourd'hui, mais vu dans un film de Philippe Garrel. Il y a beaucoup de tirages noir et blanc avec des jeunes, comme ça, bourrés.
Et il y a des flous aussi qui rappellent Garrel.
Absolument, d'ailleurs, il y a beaucoup de fantômes.
Il y a
beaucoup
de fantômes.
Il y a du gras, c'est beaucoup plus gras.
Les fantômes des migrants camerounais qui sont dans les caves des cités.
De l'aérohabitat, il y a les autoportraits de Sonia Marabet, effectivement. Et il y a des très jeunes photographes qui sont même enthousiasmants. La série Vincennes, par exemple, de Youssef Krash, un projet autour de l'Aïd El Kébir et de la place des moutons dans la ville d'Alger. J'ai trouvé une très très belle série. Et la série que Anaël Pija évoquait sur le stade, Stadium Filia de Fethi Sarraoui, qui n'a que 24 ans, j'ai trouvé une des plus belles séries. On voyait vraiment toute la tension, la violence, le danger, la mise en danger des corps. Parce que ce qui est frappant dans toute cette biennale, c'est que les corps qui sont présents, très vêtus, voire même parfois totalement ensevelis sous les étoffes, sont toujours très contraints, rentrent dans le cadre, sont vraiment en studio, très posés, etc. Et là, d'un coup, à la Cité internationale des arts, ils explosent, ils incarnent vraiment quelque chose, ils incarnent cette jeunesse, ils incarnent le mouvement de ces sociétés.
Dans ce côté très noir et blanc, ce que l'on n'a pas dit, mais qui est sous-jacent, c'est qu'il y a un rapport très fort au photojournalisme et que c'est un univers, enfin, dans l'idée, pas dans la réalité des choses, et qu'il faut savoir aussi que ce sont des photographes qui ne sont pas dans une économie, qui ne vivent pas de leur travail, et comme le faisait remarquer Bruno Bugellal très justement, cette photographie-là, sauf pour l'Afrique du Sud, est une photographie qui vit sans économie. Et donc cette vitalité et cet élan est d'autant plus remarquable dans cette perspective.
Je ne nie pas tout ça. D'ailleurs, je suis beaucoup moins passionné, ça s'est vu par la photo que par Poussin, donc reste relativement discret. Mais j'ai quand même un petit questionnement, parce qu'au fond, je pense que les deux photographes qui interrogent, je dirais, la masculinité, le genre, etc., singulièrement, ces deux photographes, c'est donc Scarlett Cotten, dont parlait tout à l'heure Stéphane, qui est née à Paris, qui vit à Paris et travaille aux États-Unis, et l'autre qui interroge la masculinité et le transgenre, c'est Robin Hammond, qui est né en 1975 à Wellington, en Nouvelle-Zélande, qui vit à Manchester et travaille à l'étranger. Donc je me pose là une question, non pas sur le bien fondé de l'exposition, on est bien d'accord, et sur la qualité de l'exposition, mais sur quel est le regard de, précisément, pourquoi est-ce que ce sont les deux seuls photographes qui travaillent sur la masculinité ou sur le genre, ne sont pas du monde arabe, eux. Donc quel est ce regard? Voilà. Je pose la question, je n'ai pas de réponse a priori. On voit bien ce que je sous-entends. Est-ce qu'il n'y a pas une part, je dirais, d'ethnocentrisme ou de regard un petit peu paternaliste sur la sexualité dans le monde arabe?
Non, mais je pensais à cette exposition de Youssef Nabil qui avait lieu à la Maison européenne de la photographie il y a quelques années. C'est quelqu'un qu'on voit très souvent, Youssef Nabil, qui, pour le coup, interroge vraiment la question du genre, de l'identité, de la sexualité, et qui est d'ailleurs pas très forcément bien vu dans son propre pays.
Et je pensais aussi dans ce sens à un film d'une femme justement qui s'appelle Laila Marakchi, qui est passée à la télévision marocaine sur la sexualité des jeunes au Maroc, qui a eu un certain retentissement et qui a fait scandale, et qui est justement un autre regard de femme comme celui de Scarlett Cotten, et qui là est un regard d'une cinéaste marocaine.
Stéphane Croyard.
Non, votre regard m'a incité à vous donner la parole.
Mais c'est pas une réponse non plus.
Oui. Peut-être que c'est. Peut-être que c'est aussi ce qui pose, fait le caractère, je dirais, comme un petit peu esthétisant de Scarlett Cotten.
Je souscris.
Vous souscrivez. Bon.
Oui, juste pour dire un mot, il faut dire que cette biennale donc associe aussi des galeries privées, ce qui est quand même assez rare, y compris d'ailleurs une qui n'avait pas l'air d'être au courant puisqu'elle est fermée, qu'elle n'a pas d'exposition. La galerie Thierry Marlan n'y allait pas.
C'est bien de le dire.
Hein. Bien qu'elle soit dans le parcours, apparemment son propriétaire n'a pas été mis au courant.
D'accord.
Au contraire, de la galerie.
Dans 8 lieux à Paris, donc on va dire.
Au contraire de la galerie Clémentine de la Ferronnière, qui est sur l'île Saint-Louis et qui présente une jolie exposition de Marco Barbon, un photographe qu'on connaît. Donc, vous connaissez notamment la série Chronotopie. Et c'est une jolie série, justement, sur le vide. Et comment l'imaginaire peut remplir ce vide.
Et sur Tanger. D'ailleurs, il y a une thématique Tanger avec l'autre galerie, Photo 12, qui participe, avec une des autres galeries qui participe à l'exposition des photographies de Tanger de Daniel Aron.
On voit bien que le Maroc est très présent, malgré tout, malgré le discours, on va dire, qui enrobe cette deuxième biennale qui est censée se consacrer davantage à la Tunisie et à l'Algérie. Il faut se méfier un peu de la communication et voir que si on cause un petit peu, c'est pas tout à fait le cas. Et je pensais évidemment pour répondre aussi à Maurice Ulrich, à renvoyer au dernier livre de Leïla Slimani, qu'on entend beaucoup sur notre antenne, Sexe et mensonges, la vie sexuelle au Maroc. C'est aux arènes que ça vient d'être publié pour avoir aussi d'autres réponses de ce côté-là. Naël ?
Non, ce que j'allais dire, c'est que je m'interrogeais sur la présence des galeries. Moi, je ne connaissais pas ces deux galeries, ces trois galeries. Enfin, Binôme, je la connaissais, mais les deux autres, je ne les connaissais pas. Je m'interroge pour les éditions à venir de cette biennale, par exemple. Peut-être que des galeries non spécialistes de photos, mais néanmoins présentant de la photographie, pourrait participer. Je trouve que tout ça pourrait, dans une vie future, être élargi.
Bon, vous avez des suggestions, vous faites des offres de services, pendant que Maurice Ulrich, lui, est déjà en train de plier boutique. Hein.
Non, c'est mon parapluie qui est tombé.
C'est votre parapluie. je regarde s'il pleut toujours, ça n'a pas l'air de s'être vraiment arrangé dehors. Donc, rappelez que cette biennale, deuxième du nom des photographes du monde arabe, contemporain, c'est ça le vrai titre ? Ah oui, quand même. Du monde arabe contemporain se déroule non pas sur 8 lieux, mais sur 7 lieux. Non ? Vous voulez ajouter quelque chose, Anaël Pigeat ?
Non, ça va.
Anaël Pigeat peut toujours ajouter quelque chose.
Il semble. Donc, l'Institut du monde arabe, les maisons européennes de la photo, la Cité internationale des arts, la mairie du 4e arrondissement de Paris, la galerie Binôme, la galerie Photo 12, la galerie Clémentine de la Ferronnière et a priori. Donc, après que l'inspecteur Coréard nous l'ait appris, pas de galerie Thierry Marla. Voilà pour cette biennale qui se poursuit jusqu'au, j'ai plus la date sous les yeux, jusqu'au 12 novembre. Et avant de conclure cette émission, le jeu de la dispute. Alors c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a un peu des trous dans la programmation. Il n'y avait pas de dispute hier soir, vous le savez. C'était jour de grève. Donc on revient au jeu de lundi soir, sauf erreur, Grégoire Di Fiore. Et la question était...
Quel réalisateur a adapté au cinéma le roman Cosmopolis de l'écrivain américain Don DeLillo ?
Et la réponse était...
David Cronenberg.
Absolument. On fait gagner ce soir et on reste dans le domaine du cinéma, des places pour aller voir ou revoir le magnifique film Titty Cut Follies de Frédéric Wiseman, un film qui est ressorti aujourd'hui dans les salles. La question, Grégoire ?
Quel documentaire du cinéaste américain a été interdit de projection publique aux États-Unis pendant plus de 20 ans ?
Si vous avez la réponse, vous nous l'envoyez avec vos coordonnées postales, tout cela par courriel à auditeurfc@radiofrance.com. Frédéric Wiseman, je profite pour faire une piqûre de rappel, il était le premier enregistré de la première saison des Masterclass, diffusée cet été, l'été passé sur France Culture. La deuxième saison d'enregistrement s'ouvre ce samedi 16 septembre en public au studio 106 de la Maison de la Radio de 14h à 20h. 4 masterclass se succéderont au micro de France Culture, Raymond Depardon, Dominique Gonzalez-Forster, Nathalie Crasset et Éric Rochant. Vous pouvez bien sûr venir écouter et poser des questions aussi aux invités de ces masterclass. Vous vous inscrivez tout d'abord sur le site de la Maison de la Radio. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute. Demain à 19h, une dispute consacrée à la littérature en compagnie d'Elisabeth Philippe, Raphaël Léris et Jean-Christophe Briançon. Notre sommaire, Summer de Monica Sabolo, Le petit garçon sur la plage de Pierre Demarty et La Serpe de Philippe Janeda.